Le titre de cette présentation de ce matin, c'était « Consacré à plein temps ». Et je vous avais dit que je suis originaire d'un milieu catholique, et dans le milieu catholique, il y a le clergé, il y a ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, et puis il y a les laïcs, qui ont un engagement qui n'est que ce qu'il est. Mais dans le milieu, dans les milieux évangéliques et autres, il y a aussi cette expression. Souvent, quand on rencontre un missionnaire ou un pasteur, on lui demande « qu'est-ce que tu fais ?» Il dit « ah, je suis à plein temps pour le Seigneur !» Bouf, il dit « et moi, j'y suis pas, à plein temps pour le Seigneur !» Et comme si, pour être à plein temps pour le Seigneur, il faut être pasteur, ou il faut être missionnaire, ou il faut être quelque chose. Je pense que, ici, vous êtes, ça a été évoqué tout à l'heure, vous avez une vocation à devenir... certains pasteurs missionnaires, mais d'autres bouchers, boulangers, professeurs, infirmiers, médecins, etc., dans toutes ces professions séculières les plus diverses et variées, agriculteurs, eh bien, sachons que, quelles que soient ces activités, nous avons tous vocation à être à plein temps pour le Seigneur. Alors, nous allons donc avoir notre dernière heure ensemble. Il va y avoir plusieurs parties. On va regarder un peu l'appel de Dieu et on plongera un petit peu notre nez dans ce qui s'est passé avec Jonas. Ensuite, on va se poser la question, quel est le bon référentiel? Ensuite, on va parler de l'Église qui doit prendre sa place. On mentionnera après un petit peu les enjeux d'évangélisation en lien avec ce qu'on a dit pendant ces deux jours. Et puis, on terminera avec un tout petit regard eschatologique sur ces enjeux de la création, pour voir dans quelle période sommes-nous. Alors, Jonas a reçu cet appel, un peu comme Abraham, à qui Dieu a dit « quitte ton pays et va vers ». Eh bien, le livre de Jonas commence par... Fils d'Amittaï, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Alors Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua avec les gens pour aller à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Vous voyez, il y a être à plein temps ou à temps partiel pour le Seigneur, et puis il y a aussi être là où il y a le Seigneur, et puis aller loin de l'Éternel. Tarsis, c'était vraiment à l'autre bout de la Méditerranée, c'est-à-dire à l'autre bout du monde connu de Jonas, en tout cas. Donc c'était vraiment fuir loin, 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 loin du regard du Seigneur, pour pouvoir ne pas répondre à l'appel du Seigneur. Eh bien, nous sommes invités, nous, à rendre grâce au Père, à célébrer sa gloire, un peu comme c'est rappelé dans Colossiens 1, et on reviendra sur ce premier chapitre aux Colossiens. Marcher d'une manière, voilà un petit peu notre appel, hein, c'est pas « va à Ninive », c'est marcher d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. Portez des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissez dans la connaissance de Dieu. Devenez puissant à tous égards par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérant et patient, et avec joie rendrez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Excusez du peu, ces quelques versets, on pourrait y passer aussi un week-end complet, rien qu'à commenter la richesse de ce passage. Mais c'est pour vous dire que nous avons un appel dans la parole de Dieu qui est extrêmement clair, qui est multiple, qui est varié, qui aussi nous touche de façon un petit peu différente les uns et les autres. Hein? Nous avons cet appel d'aller vers toutes les nations pour annoncer la bonne nouvelle et d'aller vers aussi toute la création. Et comme Jonas, eh bien, en tout cas sur les sujets qui nous ont préoccupés depuis hier matin, eh bien, nous avons envie de ne pas obéir. Nous avons envie de nous dire à quoi bon. Nous avons envie de se dire, mais c'est Il n'y a pas de raison que je me mobilise pour ces préoccupations. Jonas, lui, il avait des bonnes raisons de ne pas répondre à l'appel de Dieu et de dire « Mais attends, il est fou ce gars-là, hein ? Moi, je vais dans un autre pays, je vais ailleurs. Hein ?» Ninive, ça représentait le pays, la menace. C'était Al-Qaïda de l'époque. Hein ? Et Dieu dit à Jonas « Tu vas aller évangéliser à Al-Qaïda. » Mais attends, Al-Qaïda, c'est ceux qui nous menacent. Jonas, aussi, il connaissait sa parole de Dieu. Il a répondu au Seigneur avec des versets bibliques. Il lui a dit, mais attends Seigneur, t'es complètement fou. Tu me dis, moi, d'aller convertir Ninive, alors que dans la parole de Dieu, je lis dans le prophète Nahum, un siècle après moi, que Ninive, de toute façon, tu vas la détruire. Hein, vous reprenez votre Bible, vous avez Jonas, et puis deux prophètes après, c'est Nahum. C'est à peu près un siècle après. Hein, et dans Jonas, Dieu dit à Jonas d'aller convertir Ninive, et Ninive se convertit, se repent. Et puis, un siècle après, Nahum dit, malheur à Ninive, et Ninive sera détruite réellement. Donc Jonas répond logiquement à Dieu, mais à quoi bon aller convertir un peuple, puisque de toute façon il est condamné à la destruction, c'est écrit dans ta parole, ça sera écrit dans un siècle. Nous sommes un peu dans des situations analogues. À quoi bon nous mobiliser en faveur de la création, puisqu'on sait qu'elle est condamnée à être détruite, à être... Hein, et ça, cette opposition, vous l'entendez souvent. Donc vous voyez qu'on a des bonnes réponses théologiques pour ne pas écouter l'appel de Dieu concernant notre mandat en faveur de la création. Et puis, on a aussi des bonnes raisons de répondre au Seigneur, mais qui sommes-nous ? Qui sommes-nous ? Un petit groupe de chrétiens du GBUC, un petit groupe de chrétiens dans mon église d'Abbeville, où on est 25 membres sur un bassin de population de 80 000 personnes. Qui sommes-nous pour aller avoir la moindre influence sur ta création ? Et nous sommes en train d'oublier que le Seigneur nous a dit « Vous êtes le sel de la terre ». Je ne connais pas la proportion, mais dans un plat de nouilles, la masse de sel par rapport à la masse de nouilles, elle est quand même relativement faible. Hein ? Et pourtant, ça change tout. Hein ? Donc, nous n'avons pas vocation à être un peuple de masse proportionnellement. Quand le Seigneur dit « Vous êtes le sel de la terre », ça veut dire que ce petit noyau de chrétiens que nous sommes, nous allons changer tout sur la terre. Donc nous ne devons pas fuir nos responsabilités, notre mandat est très clair, hein, et nous n'avons pas à discuter ce mandat. Et puis ce qui est quand même très surprenant, et on le voit aussi dans le livre de Jonas, c'est que les hommes du monde sont parfois beaucoup plus sages que nous. Regardez les marins de Jonas, on est en pleine tempête. Les marins ont peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et lancèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire pour s'en alléger. Hein, on parlait tout à l'heure, hier, de surconsommation, d'excédent, etc. Ben là, le bateau, il était dans l'obésité. Donc, on se débarrasse de tout ce qui est inutile. Hein ? Et qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là ? Jonas, il descend à fond de cale, il se couche. Et il s'endort profondément. Et les marins, ils réagissent, ils vident le bateau, ils se démènent pour essayer de faire face à la tempête. Et ce sont ces marins qui ont l'intuition qu'il y a un enjeu spirituel. Jonas dort, et les marins vont voir Jonas le secoue, en leur disant, mais dis donc, Jonas, là, qu'est-ce qui se passe ? Jonas leur répondit, « Je suis hébreu, je crains l'Éternel, les dieux des cieux qui a fait la mer et la terre ferme. » Ces hommes furent saisis d'une grande crainte et lui dirent, « Mais qu'as-tu fait là ? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de l'Éternel parce qu'il leur avait expliqué. Et puis, tous ces hommes prient leur Dieu, font ce qu'ils peuvent, et réveillent Jonas en disant, « Mais prie ton Dieu !» Donc vous voyez que, d'une part, les hommes, on se rend compte que face à cet enjeu de la création, se mobilisent beaucoup plus que les chrétiens. Et puis, il y en a un certain nombre qui disent, prie ton Dieu. Vous avez peut-être entendu parler en France de Nicolas Hulot, ce journaliste qui pilote ce programme de Ushuaïa, qui est un programme sur la nature qui est extrêmement regardé, qui est agnostique. Je ne vais pas développer, mais il ne se cache pas sa fascination pour les hommes de foi. Et il y a eu tout un processus, tout un débat qui s'est appelé les Grenelles de l'environnement. Et à la fin des Grenelles de l'environnement, ce qui a débouché sur une loi en faveur, en tout cas, de l'écologie. Et Nicolas Hulot a été interviewé par un des journaux, un grand journal français, le Figaro. Et il a dit ce qui a manqué aux Grenelles de l'environnement, c'est la dimension spirituelle. C'est-à-dire, sous-entendu, ceux qui croient en quelque chose, mais priez votre Dieu. Hein? Donc on est vraiment dans un siècle. Al Gore, à la fin de son film, alors c'est très américain, vous allez me le dire, il y a, tout un certain nombre de conseils pratiques, et puis prier, bien sûr. Donc, les hommes sont souvent beaucoup plus sages, les dons chrétiens sont souvent beaucoup plus sages que les chrétiens, c'est aussi une leçon de ce livre de Jonas. Et si les chrétiens ne changent pas, pourquoi veut-on que le monde change, alors que les chrétiens, eux, on l'a vu depuis hier matin, ils sont appelés par le Créateur, alors qu'ils ont une relation d'amour avec le Créateur. Et l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est le moteur qui transforme une contrainte en bonheur. L'amour, c'est ce qui permet de supporter les épreuves. L'amour, c'est ce qui permet de se serrer la ceinture. Regardez dans nos familles, comment nos mères et nos pères sont capables de se saigner pour leurs enfants, de se serrer la ceinture, c'est bien par amour. Nous avons cette clé, nous avons ce moteur. Et trop souvent, nous dormons au fond du bateau. Et quelqu'un a posé la question hier, mais est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce qu'on n'est pas déjà en situation de non-retour? Eh bien, on est peut-être dans le temps de la patience de Dieu, même concernant cet enjeu de l'environnement. Dans 2 Pierre 3, il est un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun ne périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, la terre, les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes ? Pierre dit, ça va mal se finir, mais en attendant... Attendez, hâtez l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et sans défaut dans la paix. Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul nous l'a aussi écrit avec sagesse, qui lui a été donné. Nous sommes dans un temps de la patience, même quand on regarde les événements environnementaux d'aujourd'hui. Regardez un petit peu ce problème d'émission de CO2. Il y a un problème, c'est que quand on regarde tout ce qu'on a cramé depuis deux siècles, depuis le début de l'ère industrielle, qu'on fait le total des milliards de tonnes d'équivalent pétrole qui ont été jetées dans l'atmosphère, et qu'on regarde la teneur en CO2 aujourd'hui, dans l'air, eh bien, on ne retrouve pas tout le CO2. Tout ce CO2 qui a été brûlé, on ne le retrouve pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il a bien fait les choses. Et qu'on a une espèce d'énorme machine de recyclage du CO2 qui s'appelle le plancton. Hein, et les océans, actuellement, sont en train de s'activer pendant ce temps de la patience de Dieu. C'est-à-dire qu'on a tous les clignotants qui s'allument. Attention, 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 l'iceberg est là, on va aller dans l'iceberg. Attention, c'est pour bientôt. Attention, la température augmente. Attention, regardez les conséquences. Regardez votre beau panneau, là. Un temps du changement, c'est de 2001. C'est toujours encore complètement d'actualité. Est-ce que vous l'avez lu? Et... un temps de changement. C'est pas beau, ça, hein? Et puis, on se rend compte que le Seigneur a aussi mis dans sa création des éléments régulateurs qui permettent de manifester sa patience. Et comme on sait que la création est aussi le reflet de Dieu, eh bien la création aussi est dotée de mécanismes de patience. Il y a des tas de mécanismes actuellement autorégulateurs qui atténuent considérablement les effets de nos pollutions et de notre destruction, qui fait que non, nous ne sommes pas dans une période de non-retour. Il est encore complètement temps de nous mobiliser en faveur de la création. Donc voilà, sachons obéir à Dieu et écouter son appel. Quel est le bon référentiel? D'où je tire mon bonheur? Qui suis-je? Finalement, de qui suis-je né? Et quand je me pose la question de qui suis-je né, eh bien, cela engendre une autre question, de qui suis-je l'esclave? Je suis de naissance charnelle par mes parents. Et normalement, ceux qui ont hérité de leurs parents, qui ont la chance d'avoir hérité d'un peu de biens matériels, ont en charge de s'occuper de leur héritage. Et puis, tout l'héritage aussi culturel, etc. Il est normal que, de par notre naissance, nous nous occupions de notre héritage. Et puis, comme je l'ai un petit peu évoqué, c'était aussi le sens de ma présentation de vendredi soir, de cet héritage culturel, matériel, etc., eh bien, il en découle un certain nombre de dépendances, un certain nombre d'esclavages liés à toute cette éducation, cette culture, l'environnement dans lequel nous avons grandi, notre histoire, l'esclavage des gens à qui je veux plaire. Réfléchissez bien à ça. C'est tout ça qui crée mon référentiel, la base de mes valeurs, la base de mes comportements, et on a très bien vu hier que finalement, le référentiel par excellence dans notre monde, dans notre siècle d'aujourd'hui, eh bien, c'est l'économique. Toutes les décisions sont régies par des intérêts économiques, et on l'a vu hier, même des intérêts économiques à court terme. Voilà un peu le référentiel de notre monde, dans lequel nous baignons, dans lequel nous sommes complices, c'est notre dépendance. Et nous sommes bien identiques à ceux dont Pierre parle en 2 Pierre 2:12, « Mais eux, semblables à des animaux dépourvus de raison et destinés par nature à être capturés et détruits, ils injurient ce qu'ils ignorent, ils périront par leur propre corruption. » Regardez le système bancaire. « L'injustice sera le salaire de l'injustice. Ils trouvent leur plaisir à se livrer à la volupté en plein jour. Ils ne sont que défauts et tâches. Ils se délectent de leur tromperie en festoyant avec vous. » Voilà une description du monde dans lequel nous vivons et dans lequel nous sommes plus ou moins, on l'a évoqué hier, plus ou moins complices, quand je vais chercher mon assurance complémentaire ou quand je vais remplir mon réservoir d'essence, je deviens solidaire de ce monde et ce référentiel. Et suis-je sous le même esclavage? Continuons ce 2 Pierre au verset 17. « Ce sont des fontaines sans eau, des nuages que chasse la tempête. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours grandiloquents et creux, ils séduisent par les convoitises déréglées de la chair, ce dont on a parlé hier, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est l'esclave de ce qui a triomphé de lui. » Chacun est l'esclave de ce qui a triomphé de lui. Voilà dans quelle dépendance nous sommes de par notre nature charnelle. Or, nous savons que nous sommes nés d'une nouvelle naissance. Grâce à notre salut, nous sommes nés de nouveau. Et là encore, est-ce que nous nous exclamons, mais ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père, m'occuper de mon héritage? Nous sommes nés de nouveau, nous sommes héritiers, co-héritiers du Christ, et comme lui, ne savons pas, ne savons-nous pas que nous devons nous occuper des affaires de mon père ? Vous vous souvenez de ce cri de Jésus à l'âge de 12 ans, il avait déjà tout compris. Suis-je prêt à abandonner mon esclavage charnel pour être serviteur de Dieu ? Et retrouvons cette expression d'esclavage en Romains 6, verset 16. « Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce à Dieu, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été transmise. Libéré du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. » Hein, hier, on a fait un petit parallèle entre la dépendance à l'alcool, au tabac, etc., et cette dépendance à notre monde matérialiste. Eh bien, on voit très bien que la parole de Dieu a déjà utilisé cette image. Est-ce que nous sommes invités à être puissants spirituellement, nés de nouveau, pour être faibles humainement ? Est-ce que nous sommes invités à devenir le plus grand dans la création en devenant serviteur ? Celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur. Voilà une inversion des valeurs, une inversion de référentiel. C'est donc une invitation à une profonde métanoïa. Le mot métanoïa, c'est le mot grec qui traduit, enfin que nous traduisons par conversion. Conversion, on sent qu'on s'inverse, on se retourne, on retourne notre cœur. Eh bien, en tant que chrétien, nous sommes invités à la conversion. Et nous sommes invités à la conversion d'abord par les non-chrétiens. Parce que figurez-vous que les grandes organisations de conservation de la nature, que ce soit WWF, l'UICN et d'autres, arrivent toutes au même constat. Quand elles se disent, mais comment ça se fait ? On a étudié l'évolution de l'environnement. On a constaté, on a prouvé que ce que nous annoncions est vrai. On avertit, on appelle l'urgence. Et pourtant, les comportements ne changent pas. Les comportements ne changent pas. Et pour ne pas changer, on fait des petits changements de comportement à la marge qui finalement n'engagent pas vraiment un vrai changement profond des comportements. Alors, là, je vais citer Jean-Paul II. Je fais juste une parenthèse à propos de Jean-Paul II, que quand vous vous adressez sur ces sujets-là à un public catholique, sachez, vous pouvez noter la référence, vous le trouverez sur Internet très facilement, que Jean-Paul II a prononcé un discours en janvier 90, un discours sur la paix, à l'occasion de la Journée mondiale sur la paix, qui est une quasi-encyclique sur l'écologie et la foi, et qu'il a écrite de façon évangélique, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas référé au magistère, c'est-à-dire à la tradition de l'Église, pour développer son raisonnement, mais il est vraiment parti uniquement de textes. Il a fait juste une allusion à Saint François d'Assise, mais c'est charmant. Mais vraiment, tout ce discours qui fait 7 pages en document Word est un discours évangélique. Et Jean-Paul II lui-même conclut en disant ce terrain des enjeux de la création, c'est vraiment un terrain d'œcuménisme entre chrétiens. Donc sachez utiliser cette carte avec les catholiques pour pouvoir ouvrir des dialogues. Eh bien, dans ce discours, Jean-Paul II dit « Une solution au défi écologique exige plus que des propositions purement économiques et technologiques. Cela exige une conversion intérieure du cœur qui conduise au refus de schémas insoutenables de consommation et de production. Pourquoi attend-on un changement du monde alors que les chrétiens qui ont en eux la puissance nécessaire pour changer ne changent pas ou restent indifférents à ces appels ? Parce que nous, les chrétiens, on a tellement plus que les gens du monde pour changer. Nous avons le Saint-Esprit pour conduire notre conversion, notre métanoïa, notre changement de comportement, ce changement de comportement indispensable à notre société actuelle. Éphésiens 4, 22. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ, si du moins vous avez entendu parler de lui, si vous avez été instruit en lui, conformément à la vérité qui est en Jésus. C'est-à-dire, vous dépouillez. À cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelée par l'Esprit. Vous voyez la clé, l'outil, la valeur ajoutée du chrétien. C'est que nous avons la possibilité de changer de comportement car nous sommes renouvelés avec l'aide de l'Esprit. Nous sommes renouvelés par l'Esprit dans votre intelligence et revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Là encore, quelques versets extrêmement denses dont on aurait besoin de plusieurs heures pour arriver au bout du commentaire. Hein. D'autres invitations, Romains 12, 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Changeons de référentiel, n'ayons pas le même référentiel que le monde. Et Éphésiens 1, 16, « Je ne cesse de rendre ces deux, trois chapitres où il y a 36 promesses, je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage. » Parlions de notre nouvelle naissance, donc de notre héritage, et donc que nous avions à nous occuper des affaires de notre Père. Quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'action souveraine de sa force. Donc vous vous rendez compte de l'appui du capital extraordinaire que nous avons comme chrétiens. Hein, de cette valeur ajoutée que nous avons en tant que chrétiens. Et déjà, David l'avait pressenti, il n'a pas dit en mots aussi sophistiqués que Paul, hein, et David crie, « Ô Dieu, 51-10, psaume 51-10, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Seigneur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et puis hier, nous avons cité les sept armes du chrétien hein, dans Éphésiens 6. Nous n'allons pas les reprendre maintenant. Et puis nous savons que nous sommes invités à 1 Corinthiens 15, 58. Mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Mais ce verset prend tout son relief. Quand on comprend que c'est, je vous ai dit, 1 Corinthiens 15, 58, c'est le dernier verset du chapitre 15, et le chapitre 15 de la première épître de Corinthiens, c'est tout ce chapitre qui annonce la résurrection, tout ce développement sur la résurrection, sur notre corps de ressuscité, hein, on ne va pas développer aujourd'hui, ce serait passionnant, hein, eh bien, sachant que nous sommes condamnés à mourir puis à ressusciter, eh bien, soyez fermes, inébranlables, progressez dans l'œuvre, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. On pourrait dire effectivement que, ben, puisque nos corps sont condamnés à mourir, pourquoi allons-nous prendre soin de nos corps? Pourquoi allons-nous persévérer? Eh bien, l'apôtre Paul prend vraiment le contre-pied en disant « Tout ce travail n'est pas vain. » Eh bien, si c'est valable pour notre corps charnel, c'est tout aussi valable pour toute la création. Et pour finir ces quelques mots sur la conversion proprement dite, le changement de... Enfin, c'est même pas tout à fait fini, de comportement. Je citerai ces versets très durs ou très directs de Jacques. Hein. Jacques, c'est pas celui qu'il faut lire quand on déprime un peu, hein, parce que... Jacques 1, 22. « Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement. » Bouf. « Et en vous abusant par de faux raisonnements. » Hein, donc attention aux faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne les pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. Et Jacques 2, 14, mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi si l'on n'a pas les œuvres ? Cette foi peut-elle sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture chaque jour, et qu'un l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous » sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Oh, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. » Donc vous voyez que, oui, nous sommes sauvés par la foi, hein, mais nous sommes sauvés par la foi grâce à la parole de Dieu, mais cette parole de Dieu, en même temps, nous invite à ne pas rester oisifs et stériles, hein, mais à nous mobiliser aussi dans ces œuvres de vérité et de justice et dans l'usage de toutes les armes du chrétien. Alors, mon cheminement à moi, mon cheminement, c'est de pouvoir crier à un moment donné, comme Job, après toute cette fantastique démonstration de science naturelle que sont les chapitres 38, 39 et 40 du livre de Job. « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne, je me repens sur la poussière de la cendre. » Et je crois que le point de départ de notre action en faveur de la création, puisque c'est notre sujet de ces jours-ci, eh bien, c'est regarder cette création, hein, et dire « Seigneur, j'ai vu ton œuvre, c'est pourquoi je me condamne, je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Nous avons évoqué un certain nombre, hier après-midi, on a évoqué un certain nombre de pistes de changement de comportement, et de façon peut-être surprenante, vous attendiez peut-être de ma part que je sois un expert en environnement. Je sais qu'il y en a, un dans la salle, là, l'horloge parlante, là. non, qu'est-ce qui est expert en... Non, c'est pas toi. C'est toi, oui, c'est toi. Eh bien, je ne suis pas venu ici en tant qu'expert en environnement. Je suis venu ici pour nous encourager mutuellement à une invitation à la conversion, et non pas pour vous dire c'est ça qu'il faut faire, non pas pour vous dire quand on est chrétien on se conduit comme ça, ça la réponse c'est vous qui allez la trouver, parce qu'il s'agit de vous mettre chacun individuellement devant le Seigneur. Seigneur, j'ai compris que j'ai un mandat pour ta création, j'ai compris que j'ai été négligent. Je te demande pardon aussi pour mes générations, pour mes parents et le comportement de ma famille et pour les générations antérieures. Je me repens. Hein, j'ai maintenant mon œil t'a vu. Hein, et Seigneur, qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Un petit peu, vous savez, l'apôtre Paul, hein, sur le chemin de Damas. Que ferais-je, Seigneur ? Hein ? Eh bien, sachons nous mettre vraiment individuellement devant le Seigneur, méditer ce qu'il a à nous dire, ce qu'il nous invite à changer. Quelle priorité ? Quelles sont mes dépendances ? Quels sont mes esclavages ? Quel don m'a-t-il donné que je suis en train d'enfouir ? Quelle place dois-je prendre ? Hein ? Voilà toutes les questions qui vont m'amener devant le Seigneur. Et puis vous allez voir, de façon très surprenante, vous allez être frappé de voir que le Seigneur va te dire, « Écoute, toi, de toute façon, il va y aller par étapes. Hein, il nous prend là où il est, le Seigneur. Hein, il nous prend là où on est. Hein, » Rappelez-vous cette image que le Seigneur a dite avec cette pièce de drap neuf sur un vieil habit. Le Seigneur ne coud pas une pièce de drap neuf sur un vieil habit. Il ne fait pas de nous, du jour au lendemain, un saint parfait. Hein? Et si jamais je me comporte comme ça avec quelqu'un en disant « tu dois faire ça », je couds une pièce de drap neuf à un vieil habit. Et puis, tout se déchire, et puis c'est l'échec total, et c'est le rejet. Eh bien, Mettons-nous devant le Seigneur, et puis le Seigneur te montrera que c'est peut-être déjà sur ton vêtement qu'il faudra agir, que c'est ta façon d'acheter, que c'est ta façon de gérer ton énergie, de gérer tes vacances, de gérer ta voiture, de gérer ton... Je ne sais pas. Là, je n'ai pas du tout envie de m'immiscer. Peut-être d'autres gens pourront vous conseiller, vous aider à réfléchir. Mais ce que je voudrais surtout, je ne suis pas venu là pour vous amener des recettes. Je suis venu là pour vous dire, mettez-vous devant le Seigneur en disant, Seigneur, j'ai compris que j'ai un mandat en faveur de ta création. Qu'est-ce que concrètement tu attends de moi? Ce qui n'exclut pas une démarche collective, en Église, on va revenir un petit peu plus loin. Mais ce qui exclut de mettre en place dans le monde chrétien, au GBU ou dans votre Église, un espèce d'écolo-légalisme, parce que le légalisme a fait des ravages dans toutes les Églises, qui ont pris un petit peu d'âge, et fait encore des ravages dans nos Églises. Et si vous créez une Église, ou si vous êtes dans une Église jeune, eh bien vous verrez qu'après quelques années, eh bien le légalisme s'installe, et il y a des traditions qui se remettent en place. Eh bien là, il ne s'agit pas de créer un certain nombre de principes. Il s'agit vraiment de se mettre devant le Seigneur, d'être conscient. Et puis, il nous a donné d'une intelligence, il nous a invité à renouveler notre intelligence grâce à son Esprit Saint, pour que, face à ces enjeux, eh bien, nous sachions lui obéir et répondre à son appel. Alors, parlons un petit peu maintenant de l'Église. L'Église, quelle est-elle? D'après la parole de Dieu, eh bien, on va commencer par citer un texte de Tite 2, verset 11. « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde, et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse. » C'est pas moi qui le dis, hein, c'est écrit dans la Bible, ça, vous voyez. C'est du très concret. « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. » Donc vous voyez, toujours en attendant, nous sommes dans le temps de la patience. Donc il y a vraiment une invitation à être très, de façon vivre, de façon très concrète, de manière sensée, juste et pieuse. Donc en attendant la manifestation de la gloire de notre Dieu et Sauveur, le Christ Jésus, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Donc voilà, l'Église, c'est le peuple que le Seigneur s'est donné, purifié et zélé pour les bonnes œuvres. Et en 1 Pierre 2, 9, « Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, que d'attributs, un peuple racheté, afin, c'est pas pour rien, hein, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Donc voilà encore des attributs de l'Église. Et cette Église est au service de la réconciliation en 2 Corinthiens 5, 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui, par le Christ, qui nous a donné le service de la réconciliation. Donc le Christ nous a donné le peuple qu'il s'est choisi, il nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour le Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Puisque nous travaillons ensemble, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Donc vous voyez là, ce peuple choisi, que Jésus s'est choisi, eh bien ce n'est pas en vain, c'est pour pratiquer de bonnes œuvres, c'est pour être les porteurs de la parole de réconciliation dès maintenant. Et pour cela, nous sommes invités à briller dans le monde. Philippiens 2, 14, faites tout sans vous plaindre et sans discuter pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans tache au sein d'une humanité corrompue. On en a parlé. Au sein d'une humanité corrompue et perverse, dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde en portant la parole de vie. Et parfois, on se demande si les chrétiens ne brillent pas comme des flambeaux à la cave. Donc, voilà un peu ce qu'est l'Église et qui a un rôle comme partenaire du Christ, Éphésiens 1, 22. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et Éphésiens 1, toujours verset 9, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui pour l'exécuter dans les temps qui seraient accomplis, et réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. En lui, nous avons été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Ouh, quel programme! Donc là, je vous ai un peu assommé. Bon, j'espère que vous avez noté les références, sinon je pourrais vous les redonner. Hein. Mais vous voyez, la valeur ajoutée des chrétiens dans ce monde. On est effectivement, bon, notre sujet, on pourrait parler de tant de choses, mais notre sujet de ces jours-ci, c'était la création et le soin de la création. Hein. Et on se rend compte que le monde bouge complètement insuffisamment, et c'est normal. Parce que les chrétiens qui ont tellement de meilleures raisons, de plus grandes raisons, de plus nobles raisons de bouger, eh bien, brillent comme des flambeaux à la cave. Et ces chrétiens ne savent pas puiser auprès de Dieu, puiser auprès du Christ et de son sacrifice, puiser auprès du Saint-Esprit toute cette énergie nécessaire à notre mission sur terre, qui est en même temps une invitation à la conversion. Et en plus, dans les sept armes, vous vous souvenez, la première c'était la vérité, puis la justice, etc. Et la dernière c'est la prière. Nous avons à notre disposition du carburant, une énergie qui nous permet d'être ce sel de la terre, si infime proportionnellement, et vous en êtes conscient dans vos universités, vous êtes si peu. Mais nous avons cette puissance de la prière, nous avons cette passerelle indispensable de l'action du Christ sur la terre. Nous sommes ce peuple, ce privilégié, nous avons cet accès direct auprès de Dieu. Nous avons cette capacité de dialogue avec Dieu, nous avons cet effet multiplicateur fantastique que nous apporte la prière. Regardez un petit peu ce dialogue entre avec le Seigneur, par exemple, dans la multiplication des pains, l'une des deux. Il y a une discussion entre Jésus et les disciples. C'est les disciples qui prennent l'initiative, qui disent à Jésus, dis donc, le soleil descend, là, il commence à faire tard, il faut que tu les renvoies, là, arrête de causer, tu causes trop. Hein, ils vont avoir faim, il faut qu'ils aillent se nourrir avant la tombée de la nuit. C'est bien une initiative des disciples. Et là, on voit bien que, on l'a dit hier matin, nous avons un mandat, mais nous avons été dotés d'une intelligence, nous sommes créés à l'image de Dieu, avec cette faculté de créer, cette faculté d'initiative, cette faculté de maîtriser la technologie. Et nous avons cette faculté de nous adresser directement au Seigneur, de lui dire, dis donc, il y a un problème. Il y a un problème, Seigneur. Bon, et Jésus dit, bon, qu'est-ce que vous avez pour régler le problème ? On a quelques pains et quelques poissons. Bon, c'est vrai que ce n'est pas assez, je reconnais. Hein. Et puis là, il y a le miracle. Hein. Mais est-ce que nous nous tournons vers le Seigneur en disant, Seigneur, la planète, là, il y a un problème. Et le Seigneur nous dit, oui, il y a un problème, et qu'est-ce que vous avez pour régler le problème? Ah, bon, on dort, nous. Hein. On est au fond du bateau. Hein. Vous savez, c'est le sens d'Arosha, créer une œuvre de conservation de la nature qui va protéger des salamandres, des grenouilles, des si petites choses, qui va étudier la migration de ces bécassos qui passent de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud et réciproquement dans une année complète, si humble, si petit et en même temps si victime de notre monde. Hein. Donc ce sont les pains et les poissons que nous apportons, hein, accompagnés d'une prière en disant « Seigneur, fais quelque chose, on est trop faible, on n'y arrive pas, et le monde nous attend, et le monde nous dit « Mais prie ton Dieu !» Parce qu'il y a la tempête, on a fait tout ce qu'on pouvait, on a déchargé, on a vidé le bateau, on a etc. Et puis la tempête continue, il nous reste qu'un espoir, prie ton Dieu. Et puis donc Jésus multiplie les pains, et à la fin il nous renvoie à notre responsabilité, allez ramasser ce qui traîne, ne gaspillons pas, et puis on ramasse 12 paniers. Et puis cette femme merveilleuse, tu en as parlé hier, cette veuve avec ses 5 sous. On voit ces gens qui donnent des dons importants au temple, et puis cette femme qui apporte et qui donne 5 sous. Et Jésus dit, elle a donné plus que tous les autres. Elle a donné plus que tous les autres. Et pourquoi? Parce qu'elle a donné de son essentiel, elle a donné de tout elle-même, elle a donné de tout son cœur. Et tout ce cœur, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, la taille de la bourse, mais l'Éternel regarde au cœur. Et tout ce cœur que cette femme a donné en donnant ses 5 sous monte comme une prière dans le ciel et retombe en bénédiction sur le temple et sur le peuple. Et peut-être que le trésorier du temple, il aura moins de dépenses parce qu'il y a une bénédiction sur les temples suscitée par ces 5 sous apportés par cette femme. Donc oui, nous sommes faibles. Oui, nous sommes peu nombreux. Oui, Arosha est une organisation si frêle. Je peux vous dire qu'on est si frêle. Le GBUC, c'est si frêle, si petit. Hein? Mais apportons tout notre cœur. Hein? Et le Seigneur nous dira, tu as donné plus que tous les autres. Ah, il faut absolument que je vous parle d'une autre femme de la Bible que j'ai oubliée. Mais je le ferai après. Est-ce que, si nous ne prions pas, comment peut-on imaginer que le monde dont nous avons la responsabilité peut survivre? Parce que nous n'avons pas la responsabilité de ce qui se passera dans cinq siècles. Jonas, il n'avait pas la responsabilité de ce qui s'est passé du temps de Naoum. Jonas, il avait la responsabilité d'accomplir la demande que Dieu lui faisait à l'instant T. Hein? Et Ninive s'est converti. Hein? Au profit des habitants de Ninive et de tous les animaux. Vous verrez le dernier verset du livre de Jonas. On peut spéculer sur les perspectives éternelles, on va en parler un peu de la planète. Ce que nous savons, c'est que nous avons un mandat, nous avons une responsabilité. Aujourd'hui, nous sommes dans un siècle qui surconsomme, nous sommes dans un siècle qui gaspille, nous sommes dans un siècle qui méprise la création. Et nous avons une responsabilité dans notre siècle, dans notre génération, que ça se termine mal plus tard peut-être, mais à l'échelle de ma génération, c'est ma responsabilité. Hein? Et pour ça, j'ai un moyen extraordinaire qui est pour me changer moi, pour m'amener à ma métanoïa, qui est l'Esprit Saint. Et j'ai une énergie fantastique qui est la prière. On l'a évoqué hier, l'Église, puisqu'on est encore dans le chapitre de l'Église, eh bien, a un rôle humain et social. On a dit que tout ce processus de changement à l'échelle de la société, pourquoi je changerais moi tout seul si mon voisin ne change pas? Hein? Eh bien, on a la chance que l'Église, elle a déjà un rôle humain et social à l'échelle de ma petite Église locale, et là je suis dans le concret, vous voyez, On descend de grandes considérations spirituelles, on a parlé du Saint-Esprit et de prière, et puis bloum, là, je fais un atterrissage très, très pratique, mais je crois que la parole de Dieu, on a vu tous ces textes qui nous invitaient à l'espérance et qui nous invitaient en même temps à des œuvres très concrètes. L'église locale, c'est quand même le lieu où je peux échanger, je peux échanger mes préoccupations, c'est le lieu où je peux changer. Je peux cheminer avec mes frères de l'église locale et là, je ne serai pas tout seul à changer de comportement dans ma relation avec l'environnement. Et puis, avec mon église locale, je peux influencer localement, je peux influencer ma mairie, je peux influencer mon quartier, je peux influencer d'autres églises, d'autres groupes. Imaginez seulement un réveil environnemental au sein de votre église locale et l'impact que cela peut avoir comme témoignage auprès de toutes les familles qui fréquentent votre église, auprès du quartier, auprès de tous les gens qui disent « Tiens, qu'est-ce qui se passe ?» Et puis l'église, sur le plan humain, c'est aussi une église universelle, avec des ramifications dans le monde entier. Quand je vois la couleur de vos peaux, qui me réjouissent tout à fait, je vois que vous venez d'un certain nombre d'entre vous, de pays bien lointains. Hein. Et si l'église prenait conscience de sa responsabilité sur le plan universel et que toutes les églises du monde se mettaient à changer. On a parlé de la Chine hier. Vous savez, la Chine, ils pensent qu'à nous rattraper. Les préoccupations environnementales, ils commencent à réagir parce qu'ils se rendent compte que ça ne peut pas continuer comme ça. Mais bon, à minima. C'est pour ça que dans certains domaines, ils sont plus compétitifs que nous parce qu'ils ne respectent pas les mêmes exigences environnementales. Combien il y a de chrétiens en Chine ? Voilà, on parle de 60 millions, 80 millions, j'ai entendu jusqu'à 120 millions. Enfin bon, la fourchette est très vaste. Enfin, c'est quand même déjà des proportions de l'ordre de 5% de la population. C'est déjà drôlement salé, hein. Vous vous rendez compte? Si tous les chrétiens de Chine se mobilisaient en faveur de la création, ça changerait la Chine, ça changerait le monde. Hein? Je pense qu'on peut dire la même chose du Canada. Donc imaginez vraiment un vrai réveil environnemental dans l'église. Alors commençons déjà par le faire au niveau de notre GBU, au niveau de notre église locale, au niveau du groupe sur lequel j'ai une capacité d'influence, de ma famille, de mes parents, etc., de mon entreprise. Et puis on sait que l'Église, elle a un rôle humain et social, elle a un rôle moral très important. C'est quand même nos pays occidentaux, ils ont peut-être rejeté, des pays comme la France ou le Canada ont rejeté, cet attachement au christianisme, n'empêche qu'ils profitent drôlement des valeurs chrétiennes. Hein, c'est quand même dans nos pays occidentaux qu'il y a malgré tout le moins de corruption. Dans les pays qui n'ont pas de culture chrétienne, de racines chrétiennes, c'est là que règne la corruption en maître, pour prendre cet exemple-là. Donc l'Église est quand même porteuse de valeurs morales. Et puis bien entendu, l'Église a un rôle spirituel qu'on vient de développer. Elle n'a pas forcément besoin d'être majoritaire ou puissante, car c'est comme lorsque je suis faible que je suis fort, hein, et que Jésus a commencé avec 12 disciples. L'Église, elle a la puissance de la parole, elle a la puissance de la prière, et je vous renvoie à ce que nous avons dit juste avant. Alors, parlons, disons deux mots d'évangélisation. Eh bien, c'est aussi, moi, quand j'ai pris la direction d'Arocha France, je me rendais compte qu'on n'arrivait pas à présenter Arocha dans les églises. Parce que les pasteurs, une association chrétienne qui protège les petits oiseaux, vraiment, c'était pas leur truc. En France, en Angleterre, ça passait déjà mieux, mais en France, vraiment, pas du tout. Et je me suis rendu compte, il y a une espèce de salon des pasteurs qui se fait à Logne, en France, et tous les ans, on avait un stand pour présenter Arocha, les responsables de l'église passaient, ne s'arrêtaient pas. Et en fait, la clé qui nous a permis d'être invités dans les églises, c'est qu'on est arrivé en disant, vous savez, Arocha, c'est drôlement bien pour l'évangélisation. Ah, là, les pasteurs, tout de suite, ils ont réagi. Mais c'est vrai, c'est génial. comment mon changement de comportement vis-à-vis de la création, vis-à-vis de l'environnement, cet environnement qui est l'enjeu du XXIe siècle, qui est la préoccupation de la jeunesse, qui est la grande préoccupation du monde aujourd'hui, même si le monde ne fait pas l'effort qu'il faut, comment mon attitude vis-à-vis de l'environnement en tant que chrétien peut être un moyen d'évangélisation. Je crois que c'est au micro que j'ai parlé du vélo de ma femme, oui. Donc quand ma femme est arrivée, le médecin est arrivé à l'hôpital en vélo ou en bus, selon la météo quand même, et plus en voiture, ce qui se doit d'un médecin, eh bien, les gens ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et ça a été pour elle une occasion de témoignage. Donc ces enjeux environnementaux sont vraiment une occasion fantastique de parler de la place de l'homme dans la création, de parler du mandat. Les grands réveils dans la chrétienté ont en général collé, soit les réveils ont engendré un engagement social, soit c'est un engagement social qui a stimulé un réveil. Aujourd'hui, surtout dans nos pays développés, on est en panne d'engagements sociaux. Les services publics, ils font marcher les hôpitaux, les écoles, etc. En France, il y a même un SAMU social pour ramasser les SDF dans la rue quand il gèle en hiver, etc. Donc il n'y a plus de place pour les œuvres chrétiennes. Il n'y a plus de place pour que les chrétiens se démarquent en disant « Regardez, nous engageons socialement. » Eh bien, avec l'environnement, il y a tellement à faire. Quand l'église locale ira voir le maire de son village ou de sa ville en disant « Écoutez, tel week-end, puisque c'est l'hiver, qu'il n'y a plus de végétation, on se propose, en tant qu'église, de faire un commando pour faire un nettoyage d'un petit morceau de rivière, parce que c'est dégueulasse, il y a des plastiques qui traînent, etc. » Le maire, il va se poser des questions. Il dit quoi? Les chrétiens qui demandent de ramasser des plastiques? C'est symbolique, c'est rien, mais c'est un témoignage. Et pourquoi vous faites ça en tant qu'église? Quel est le rapport? Je vois pas. Quel est le rapport avec mon Dieu? Les plastiques qui traînent et le bon Dieu? Quel est le rapport? À vous de développer l'argumentaire, mais vous voyez que c'est formidable comme occasion d'évangéliser. Alors il faut en même temps savoir prendre, comme toujours dans l'évangélisation, savoir prendre l'autre là où il est, ne pas lui coudre une fois de plus une pièce de drap neuf sur un vieil habit, savoir respecter là où il en est, sa culture, son éducation, son référentiel, qui est l'économie. Et comme toujours, ça exige amour, écoute, respect, mais ça n'exclut pas non plus la fermeté. Mais de toute façon, tout ça, tout le discours sera stérile s'il n'est pas accompagné de témoignages concrets, par des œuvres, c'est ce que nous disait Jacques tout à l'heure. Et puis, dans l'évangélisation, il y a quand même une clé, on va l'évoquer un peu dans le dernier point, qui est ce parallèle entre la destinée de mon corps, qui est destinée à décrépir, puis à mourir, et qui est destinée à ressusciter, 1 Corinthiens 15, et puis cette création, qui est destinée à avoir de gros soucis, à être soit restauré, soit renouvelé, soit recréé. Je ne vais pas traiter cette question aujourd'hui. Et donc, vous voyez que on a une possibilité d'annoncer la nouvelle terre, d'annoncer la résurrection à partir de ces enjeux environnementaux. Donc c'est un excellent outil d'évangélisation. Donc voilà un argument pour mobiliser votre église locale en faveur d'actions, en faveur de la création, en disant « Mais monsieur le pasteur, sache que là, tu as entre les mains un outil d'évangélisation, un outil de témoignage qui est formidable. » Et le dernier point, ça sera dans quelle période sommes-nous ? Je ne suis pas vraiment qualifié pour traiter ce point, qui est un point qui doit être... Qui exige de bonnes connaissances théologiques. Bon, enfin, on va passer en revue un certain nombre de choses quand même, à vous de l'approfondir. Et puis, il y a des très bons livres sur le sujet. Donc, dans quelle période sommes-nous? Nous avons vu qu'il y a la période de la création, et puis que très vite, un mandat a été donné aux hommes pour la création, et que ce mandat, on l'a dit, n'a pas été annulé ni par la chute, ni par la croix, etc. Ensuite, il y a donc eu la chute avec l'introduction du mal dans la relation entre Dieu et les hommes, et on a vu que cette chute, hein, nous a rappelé Romains 8, eh bien, avait engendré le désordre dans toute la création qui souffre en attendant la révélation des fils de Dieu. Hein. Donc, ensuite, eh bien, Jésus est venu. Jésus est venu et il a tout réconcilié. Colossiens 1, 18, il est la tête du corps, il est la tête de l'Église, on vient de le dire, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude, de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc la croix, c'est un acte de réconciliation qui concerne toute la création. Et le Christ, Éphésiens 1, 21, est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination, de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Donc d'un côté, je dirais la théorie, la parole de Dieu nous dit que le Christ est venu tout réconcilier, que le Christ est au-dessus de toute autorité, voilà la photographie de la situation actuelle. Et puis, cette résurrection extraordinaire, maintenant le Christ est ressuscité d'entre les morts, il est les prémices de ceux qui sont décédés, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et puis pourtant, on le sait, on le voit, on le sent, on en est les co-auteurs, le mal est présent. Donc d'un côté, il y a une victoire qui est acquise, qui est affirmée, qui est affichée, et puis de l'autre, il y a toujours cette présence du mal, cette présence du péché, cette présence de la perversion qui est omniprésente. Donc on est en ce moment, dans quelle période sommes-nous ? Ben nous sommes en ce moment dans une période de cohabitation, de cohabitation du Christ en tant que puissance au-dessus de toutes les puissances et en même temps de présence encore du mal. Et ça reste quand même un mystère. Hein. Je vous ai dit, adressez-vous aux théologiens, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de théologiens qui ont les réponses concernant le mal, sinon ça se saurait. Et en attendant, eh bien, dans cette période de cohabitation où on sait que le Christ a toute sa puissance et en même temps on sait qu'on est toujours en train de combattre contre le mal et grâce à cela on a la puissance du Seigneur, la puissance du Saint-Esprit, la puissance de la prière et en même temps nous vivons au quotidien tous ces obstacles qu'on rencontre et ce diable qui se met en permanence devant nous. Hein. Et pourtant Jésus nous dit, allez, annoncez l'évangile à toute la création. Et pourtant, la victoire sur le mal, nous savons, 1 Corinthiens 15, 25, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. En effet, Dieu a tout mis sous ses pieds. Donc, la victoire est acquise et en même temps, tout n'est pas mis sous ses pieds. Je vais rappeler encore ces versets de Romains 8, la création a été soumise au pouvoir de la fragilité, cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, il lui a toutefois donné une espérance. C'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de corruption qui l'a servie pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Nous le savons bien, jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs de l'enfantement. Donc voilà tous ces versets qui montrent cette victoire, cette perspective, cette espérance, et puis pourtant, cette présence, cette omniprésence du mal, omniprésence dans le monde, et omniprésence dans le fond de mon cœur, en tout cas du mien, peut-être pas du vôtre, mais moi, quand je vois ce qui se passe au fond de mon cœur, je me rends compte que le mal est bien là. Et nous sommes dans cette période de patience, nous l'avons évoqué tout à l'heure. Donc vous voyez que dans cette période que nous vivons, eh bien, nous sommes en train de nous préparer à une période future. Et puis l'étape suivante, eh bien, et on va terminer là-dessus, rassurez-vous, c'est la nouvelle création. Le message de la Bible est vraiment plein d'espérance. Osée 2, verset 18. « En ce jour-là, je conclurai pour eux une alliance avec les animaux des champs, les oiseaux du ciel. » Vous voyez, c'est Osée aussi qui disait « Même les oiseaux des champs mourront et les poissons dans la mer mourront. » Eh bien, le même Osée dit « Je conclurai une alliance avec les animaux. Hein? » Les oiseaux du ciel, les reptiles du sol, je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je ferai se coucher en toute sécurité. Et enfin, Isaïe 65, versets 17 à 19, car je crée, et donc écoutez bien, parce que c'est mes dernières paroles à ce micro, je crée de nouveaux cieux, une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les éléments du début, ils ne remonteront plus à la pensée. Réjouissez-vous plutôt. Et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je crée, car je crée Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Je vous remercie.